Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec aujourd'hui Georges Kuzmanovitch, président de République Souveraine et candidat à la présidentielle. Bonjour. Nicolas Jeuneté, directeur des Centristes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Conseiller de Paris. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube s'intitule Les Indécis, chaîne de débats politiques. Et Sophie de Menton, bonjour, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Et vous avez publié La France sans dessus-dessous et c'est paru aux éditions Erol. On va évidemment continuer à parler de la Russie, de l'Ukraine, de ses sanctions, des conséquences sur la vie politique française, de la chaîne RT France qui, vous le savez, ne pourra plus émettre. Et puis Gilles Gansman est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Alors, Gilles.
Vous savez qu'aujourd'hui, Jean Castex va rencontrer tous les candidats à la présidentielle. Donc, je vous propose un peu un florilège des différentes opinions. Et on va commencer par Damien Abad, pour qui les Républicains fixent le débat.
Monsieur Zemmour et Madame Le Pen, aujourd'hui, j'aimerais pas les voir au pouvoir. J'aimerais pas les voir en responsabilité face à une telle crise politique et face à une telle guerre. Parce que vous savez, quand on fait une élection présidentielle et quand on choisit un président de la République, on n'est pas là pour se faire plaisir. On confie le code nucléaire à celui qui sera en responsabilité. Et je pense que les Français sont en train de comprendre qu'on ne peut pas le confier à n'importe qui, à n'importe quand, n'importe comment. Et qu'avec Valérie Pécresse, il y aura de la solidité, de la crédibilité, de la compétence et du sérieux.
Ouais, enfin, je vous rappelle la vidéo qui circule un petit peu partout où elle a dit Vladimir Poutine, il faut lui dire stop.
Stop.
Allez, je compte jusqu'à 3. Hein, s'il y a 3 qui n'ont pas arrêté, ce sera pampan en cucu. Mais voilà, donc c'était pas forcément. Enfin voilà, après on pourra en reparler, mais c'est la question qui se pose, c'est qui pour tenir face, qui pour tenir tête à Vladimir Poutine. Continuez, Gilles, pardon.
Et pour voter pour celui qui a le moyen d'appuyer sur le bouton. Valérie Pécresse, justement, elle se réjouissait de la démission de tous ses mandats de François Fillon, une épine en moins chez les LR.
François Fillon vient d'annoncer sa démission des conseils d'administration des deux entreprises russes dans lesquelles il siégeait. Et je crois que c'est une décision qui l'honore.
Pourquoi cette décision qui l'honore ?
Parce que aujourd'hui, la Russie et les intérêts russes sont mêlés. Et l'attitude de M. Poutine ne peut pas être dissociée de celle des grands groupes russes qui sont l'armature de l'État russe.
Et oui, et on l'évoquait avec Frédéric Mitterrand tout à l'heure, Gerhard Schröder, lui, est resté en Russie et n'a pas démissionné de ses mandats. Allez, la suite, Gilles.
Pour Éric Zemmour, eh ben, il faut privilégier le pouvoir russe.
Les pays de l'Est ayant peur de la Russie se précipitent dans le giron américain, ce qui évidemment rend de plus en plus furieux la Russie. C'est un cercle vicieux quand il n'y a pas la confiance entre les différents pays. Donc moi je propose depuis le début le fait qu'on doit absolument rassurer les Russes sur l'Ukraine, qui pour eux est un pays russe, c'est là qu'est née la Russie il y a très longtemps à Kiev, et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des armes nucléaires en Ukraine et qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN.
Voilà. Et puis.
Bon, voilà.
Oui, alors là, rassurer la Russie, on a plutôt envie de lui faire peur. Cela dit, tout aujourd'hui prend un sens très particulier. Je suis en désaccord complet avec Zemmour sur ce point, mais il n'en demeure pas moins que la politique qui a été menée est une politique qui consistait à associer la Russie, à avoir des contacts avec elle. La France a été pro-russe et elle n'avait pas tort. Moi, je pense que le commerce international, la culture, etc., quand on a un homme normal, entre guillemets, à la tête d'un État, même un État autoritaire, on a intérêt à garder ses liens. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vu au prisme de cette guerre, tout est insensé, on n'aurait jamais dû avoir de lien avec la Russie. On est quand même le premier pays en termes d'entreprises et de salariés qui travaillent en Russie. Il y a eu quand même énormément d'échanges commerciaux. On ne peut pas dire qu'on a eu tort. Voilà. Alors maintenant, la réalité aujourd'hui donne effectivement tort, a priori, à ceux qui pensaient qu'on pouvait tout à fait pacifier tout ça et que en ayant des relations de plus en plus positives avec la Russie, ça allait s'arranger. Ben
mais,
non.
Mais Sophie a dit le bon mot. Le problème n'est pas la Russie, le problème est Poutine. Voilà.
Bien sûr.
Poutine, on va le rappeler encore une fois, c'est un ancien membre du KGB qui a construit toute sa carrière, qui est entouré de ligues, et puis qui est aujourd'hui dans un état second. Enfin, c'est plus le même homme. Il se met en scène.
Il a eu recours
à la chirurgie esthétique. Enfin, il rêve en tsar d'un nouvel empire tsar russe européen. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est Poutine. C'est même pas la Russie.
Oui. Alors,
on va en parler tout à l'heure. Je voudrais que Gilles termine son zapping. Gilles.
Ben oui, quand même.
Oui.
Et puis François Roussel, lui, a fait une petite allusion où finalement le mot réfugié, eh ben aujourd'hui on va le voir différemment. On parlait des migrants, maintenant on les voit différemment, ces migrants.
Notre tradition d'accueil doit aujourd'hui vivre, mais plus que jamais, pas seulement la France, l'ensemble des pays de l'Union européenne doit être en capacité d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre aujourd'hui. Et j'espère que nous allons tous le dire, y compris ceux qui, en France, disaient il y a encore quelques jours qu'il faut ériger des murs à la frontière de l'Union européenne et n'accueillir personne. On voit bien que face à la réalité, face à la vie, face aux drames humains qui se jouent en ce moment, l'heure n'est pas à construire des murs.
Oui, on reparlera de ces immigrés dans un instant avec vous, Georges. Et puis, Gilles. Et
c'était François Roussel.
Fabien Roussel.
Vous avez vu, je vous ai fait beaucoup de sons, Valérie. Pour finir, Anne Hidalgo, elle savait tout. Elle avait tout prévu et elle a tout prévu. Il faut qu'on soit clair.
Réquisitionner les villas et tous les biens des oligarques, c'est déjà une proposition, une demande qui est sur la table et je l'ai faite aussi. Donc évidemment qu'il faut les toucher au portefeuille. Accueillir les réfugiés, évidemment. Ça aussi, vous savez, j'ai autour de moi ce que j'ai appelé l'équipe de France des maires qui est déjà mobilisée dans chaque commune pour pouvoir les accueillir. Et si on manque de lieux d'hébergement, bien sûr qu'on peut le faire dans ces villas. Mais surtout, je crois qu'il faut qu'on soit aux côtés du peuple ukrainien.
Il est connu.
Oui.
Non, mais il y a des bons et des mauvais réfugiés. Il y a encore les réfugiés, il y en a encore 80 qui dorment sous un pont, dont 30 adolescents cette nuit, dans le 20e. Et en même temps, il y a des bons et des mauvais réfugiés. Ça, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Ouais. Mais là, il y a un petit problème quand même.
Oui.
Non, enfin bon, on va reparler tout à l'heure.
Mais non, mais on peut reparler maintenant.
Moi, j'entends qu'on soit pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais on est dans une situation exceptionnelle aujourd'hui. Là, il y a une crise de guerre. Alors, il y a pas, peut-être que bons et mauvais réfugiés, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, ou alors j'ai mal compris. Mais en tout cas, il y a une solution et une situation qui fait qu'on est dans une urgence et qu'il faut accueillir des réfugiés aujourd'hui qui viennent d'Ukraine. C'est ce que j'entends. Donc, sur cette situation-là, je trouve qu'elle ne dit pas que des bêtises et que elle réagit en tout cas par rapport à d'autres qui ne réagissent pas ou réagissent très mal, parce qu'il y en a d'autres qui réagissent très mal.
Le problème, c'est qu'elle va trouver des logements.
Il ne s'agit pas de dire des bêtises. Il s'agit d'une réalité. Les réfugiés ne sont pas tous les mêmes. Si vous voulez comparer effectivement les problèmes qu'on peut avoir dans les banlieues, etc., avec des réfugiés qui ont décidé d'imposer leur civilisation, entre guillemets, et des réfugiés de guerre ukrainiens, ce n'est pas les mêmes.
On ne parle pas de ça.
En fait, on parle de l'accueil et notamment de l'hébergement des réfugiés. L'accueil digne de ce nom, puisqu'un réfugié doit avoir au moins un hébergement.
On est incapable d'accueillir des réfugiés, des migrants.
Elle va trouver des logements pour les réfugiés ukrainiens et pourquoi elle ne les trouve pas pour ceux qui dorment en ce moment dans un couloir dans le 20e.
Alors, Georges Kuzmanovitch.
Pas d'accord.
Bah, c'était lié à mon coup de gueule.
Oui, c'est ça, bah, allez-y. Oui.
Bah, il est double. D'abord, il y a une série de gens qui déclarent, y compris journalistes dans les médias, qu'il y a des bons et des mauvais migrants.
Oui.
Il y a un côté très zémorisation de l'analyse qui est assez étonnante, en disant ouvertement, ils sont chrétiens, bon, à la limite ils sont blancs, donc ça va aller.
Mm. Bon.
Mais ce qui m'a le plus choqué, mais vraiment c'est choquant, et c'est un état d'esprit
François
qui est...
Jean-Louis Bourlange.
Et ceux qui parlent, mais c'est très très bien pour nous, on va pouvoir faire des profits dessus.
C'est terrible,
mais
cette phrase.
C'est dingue.
C'est-à-dire qu'on va avoir une bonne qualité d'immigrants.
On voit la petitesse d'esprit quand même. Ouais. C'est une guerre. Ah, on va en profiter. Si c'est des mathématiciens, ils travaillent bien, c'est des ingénieurs. Donc, et puis comme ils sont pas chers, parce que le niveau de vie, le salaire moyen, il me semble qu'il y a 200, 250. Non, un bon salaire à Kiev avant la guerre, c'est 300 euros. Donc, bref, ça s'appelle de l'exploitation. C'est des profiteurs de guerre.
Excusez-moi, c'est une façon de voir les choses.
Madame, j'ai pas terminé.
Laisse terminer, Georges.
Ce sont des profiteurs de guerre. Ça a toujours existé et ça commence immédiatement, cinquième jour. Alors que là, il y a une agression. On peut expliquer, on discutera après du pourquoi et du comment. Mais il y a une agression, il y a des gens qui fuient. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que ces gens puissent revenir et pas se dire « Ah, comment on les exploiter ?» Parce que l'Ukraine est un pays en développement. Et tous ces gens, a priori, la plupart, n'avaient pas envie de quitter leur maison, leur pays, leur vie et tout ce qu'ils avaient construit. Donc, évidemment, il faut accueillir les réfugiés qui arrivent parce qu'il y en aura plein. Le HCR annonce jusqu'à 5 millions.
Ouais.
Donc, il va falloir le faire s'organiser, mais ça, c'est faisable. Ça demande à ce que les États européens fassent des efforts. Mais l'objectif, c'est que... C'est pas de pérenniser ça, parce que sinon c'est la victoire de l'envahisseur.
Bien sûr.
C'est pas de sens.
On va en reparler. Je pense que vous avez tous des choses à dire sur ce sujet. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, évidemment, l'actualité en Russie, en Ukraine, est au cœur de nos débats. Aujourd'hui, Georges Kuzmanovitch, président de République Souveraine, candidat à la présidentielle. Nicolas Jeannetet, directeur des centristes. Alex Darmon, vous êtes journaliste politique. Vous dirigez une chaîne YouTube, Les Indécis. Et Sophie Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Hier, Vladimir Poutine, au milieu de l'après-midi, a précisé la menace nucléaire. C'est vrai que ce qu'on évoquait avec Cyril Brett tout à l'heure, il l'avait déjà évoqué le jour du lancement de son offensive, en disant que s'il y avait une réponse de l'Occident, il y aurait une réponse de sa part comme nous n'en avions jamais vu. Et hier, il a évoqué cette dissuasion. Donc on va en parler, on va parler des sanctions européennes, on va parler de la France aussi. Et puis de cette chaîne RT et de Spoutnik bannie par l'Union européenne. On en parlera dans un instant. On continue notre tour de table. On reparlera peut-être des migrants. Pour l'instant, faisons un pas de côté, comme on dit avec vous, Nicolas Jeannetet.
Ah oui.
Coup de cœur.
Ah oui, mon coup de cœur, c'est pour une demoiselle. Une demoiselle que j'ai rencontrée hier. Alors, elle fait 1m42. Ah. Elle n'est pas très grande. Elle est née en 2017. Elle est tout de rouge vêtue, avec un très très beau rouge à cajou. Elle a des taches rouges autour des yeux comme des lunettes. Vous l'avez compris, elle s'appelle Neige et c'est la star de ce salon de l'agriculture. Donc c'est une vache de la race Abondance qui vient de Haute-Savoie. Mmh. Et pour être très honnête, elle est magnifique. C'est la vache comme on l'aime. Elle fait 260 kilos. Hein. Alors, je discutais hier avec son éleveur, enfin celui, en tout cas un quelqu'un qui s'en occupe. Je lui ai dit, mais comment elle fait pour résister, parce que c'est vraiment la star du salon. Et alors qu'ils lui ont mis de la musique et un spot pendant un mois pour s'habituer aux flashs des photographes ou des selfies que font les gens. Donc voilà, c'était un petit coup de cœur. Et à travers ce coup de cœur, je voulais faire un tout petit coup de gueule, parce que en se baladant dans le salon, il y a bien sûr une crise du monde agricole, des jeunes agriculteurs, et on parle pas beaucoup d'une des crises dans ce monde agricole, c'est le vol de GPS, qui est aujourd'hui un des gros problèmes chez les agriculteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, pour faire des semences bien organisées, qu'on ne perde pas à la fois des graines, de l'essence, etc. Tout est fait par des GPS dans les tracteurs, dans les semenciers. Ces GPS valent très cher, entre 9 000 et 30 000 euros. Et aujourd'hui, ces GPS sont volés la nuit par des bandes mafieux. Et pour les agriculteurs, c'est terrible parce qu'ils perdent un outil, un ordinateur qui est aujourd'hui indispensable dans leur métier. Ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est vraiment un de leurs gros soucis. Voilà.
Si je peux me permettre, pour les agriculteurs, il faut se rendre compte que la moyenne sur chez tous nos agriculteurs, c'est un endettement de 250 000 euros et que deux agriculteurs se suicident par jour.
Ouais.
Et qu'il y a une mainmise absolument sidérante de l'agrobusiness qui a un monopole total et de la distribution sur des agriculteurs qui, eux, gagnent très très peu très et qui peu. Sont les ouais. dindons de la farce
ouais. Des oubliés.
Et des oubliés et qui et quand on voit ce qui se passe, vous savez que je suis attaché à la souveraineté. Ouais. Quand on voit ce qui se passe, que voilà, l'histoire a repris, les questions de souveraineté sont importantes, la souveraineté alimentaire elle est importante et les agriculteurs. L'agriculture, dans un pays qui a fait sa richesse sur l'agriculture, c'est stratégique. Oui. Et ce sont des gens qu'il faudra prendre bien un sûr. Peu plus en compte et respecter mais je crois et rémunérer.
Je crois que les Français, là, sont sensibles. Hein, ce salon de l'agriculture a remis, oui. permis de remettre un coup de projecteur oui, y a des sur les jeunes de... agriculteurs. Oui.
Et puis, Alex, les Français sont régulièrement attachés sensibles et attachés à leur ouais, agriculture. Ouais. Le salon de l'agriculture va battre des records de fréquentation cette année. Soit parce que c'est vrai qu'il n'était pas là depuis 2 ans, mais vous vous baladez, moi je l'ai couvert, le salon de l'agriculture, je développe en ce moment même un documentaire sur les nouveaux agriculteurs, ceux de moins de 40 ans, et ils savent que les Français sont sensibles à leur travail, ils savent que c'est eux qui nous donnent à manger tous les jours, et le pouvoir politique le sait aussi. Maintenant, mmh. cette crise agricole, on la connaît depuis des années, et chaque année, c'est un peu ce qui revient, ouais. comme chaque année au moment du vote, on dit, oui. les jeunes votent ouais. de moins en moins, ouais. alors que les jeunes votent de moins en moins depuis 40 ans, on le ouais, sait très
c'est
bien,
ça, c'est un peu ces pareil. Voilà. Ces sujets qu'on remet Et moi je pense que au moment du salon.
C'est ça, et cette crise ukrainienne, je pense aussi qu'elle révèle quelque chose, c'est que l'Europe, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est dans l'Europe, et que tout doit passer par l'Europe à un moment donné, et que la politique d'agriculture... Oui, mais je sais que vous êtes attaché à la souveraineté, c'est pour ça que je dis ça. La politique agricole commune, elle est européenne. Si on décide de la suivre et de la développer, eh ben on y va à fond, ce que ne font pas aujourd'hui oui. les dirigeants français. Ça, il faut le dire, clairement. Si
alors,
après...
je voudrais...
Alors, oui. on peut
allez-y.
Laisser finir...
Allez-y. Non, allez-y, allez-y, Sophie, allez-y.
Alors, Sophie...
Un petit mot, vous avez totalement raison, mais il y a quelque chose qu'on oublie, on n'a pas prononcé le mot, et c'est quelque chose de très important, ce sont des entrepreneurs. Les agriculteurs sont des entrepreneurs, et nous le négligeons, y compris d'ailleurs des organismes, on peut le dire, comme le MEDEF, comme Éthique, où nous sommes en train de commencer à travailler avec eux. On ne les considère pas, alors même si on les considère, et tous les Français sont très sensibles à ce problème, mais pas assez en tant que chefs d'entreprise. Ils n'ont pas les mêmes droits, les mêmes facilités que les chefs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a pas plus entrepreneur qu'un agriculteur.
Oui. Et le gros problème, ça, d'ailleurs, des jeunes agriculteurs, c'est surtout l'endettement. Pour oui, reprendre, il y a un problème de bien transmission. Sûr. D'ailleurs, beaucoup de candidats vont travailler là-dessus, ouais. sur la transmission héritage. De l'entreprise de père en fils et éviter effectivement de payer des taxes énormes. Les jeunes agriculteurs sont obligés de faire des prêts pour reprendre les terres de leur père. Oui, donc, c'est là-dessus, il faut revoir tout, bien évidemment, zéro.
Un mot par rapport à ce que dit Madame de Menton. Ce sont des entrepreneurs mais qui dépendent de très gros entrepreneurs, de très très grosses entreprises, comme Bigard ou Lactalis ou quelques autres, qui ont des monopoles absolus absolument. Et qui les saignent à blanc. Ouais. Donc ils sont entrepreneurs, mais entrepreneurs écrasés. Et mais, c'est oui, inadmissible.
Encore une
de
fois.
De moins en moins, ils font énormément de...
Les circuits courts, quand même, se développent voilà. de plus en plus.
Voilà. Hein. Les circuits courts, on avance.
Et notamment,
de moins en moins.
Notamment dans les cuisines scolaires,
et même
par exemple.
Dans les supermarchés, dans les
on achète de plus en plus de produits locaux. En direct, vis-à-vis des producteurs. Mais ça va se développer.
Y compris la grande distribution.
Je voudrais qu'on avance un petit peu. Alex Armand, coup de cœur.
C'est un coup de cœur, parce qu'il faut trouver quand même des coups de cœur dans ce monde qui est un peu bizarre.
Oh, j'en avais un.
Non mais bien sûr.
Avec neige. Mais, avec
bien
neige,
sûr.
Je me levais l'amour.
Moi, c'est pas tellement loin. Moi, c'est pour le 15 de France de rugby parce que la vie continue. Ouais. En tout cas pour le moment. Et sur les terrains sportifs, le 15 de France de rugby qui a magnifiquement joué samedi. Il y a une super équipe. C'est des super valeurs dans ce groupe. Ils sont en route. Je l'espère en tout cas pour le Grand Chelem. Mais ça fait longtemps. Moi, je me rappelle des matchs que je regardais quand j'étais petit chez ma grand-mère le samedi après-midi où l'équipe de France de rugby nous faisait vraiment rêver. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant rêvé devant une équipe de France de rugby. La Coupe du Monde en plus est en 2 ans en France. Donc ça nous permet vraiment de rêver complètement.
Bien
donc voilà, c'est un coup de cœur parce qu'au moins ça permet de rassembler un peu les gens et d'avoir des moments qui sont beaux avec des mecs qui sont des garçons plein de valeurs vraiment sur le terrain et qui aiment leur maillot.
Juste un petit point, alors, je fais le rugby sport et Ukraine. Justement, une des sanctions, je pense, les plus symboliques et plus importantes, c'est les sanctions qui sont faites envers notamment les sportifs, d'avoir retiré la présidence. Il était président, je crois, de
la Fédération de judo.
Voilà, Fédération de judo. Ça, c'est des pour Poutine et pour le peuple. Ça va être des symboles très très importants, presque plus qu'économiques, je pense.
Ça sent plus la puissance qu'autre chose.
Sophie, je vais vous donner la parole dans un instant. Moi, j'avais un coup de gueule sur cette loi adoptée par le Parlement à propos du sport. Vous savez, il y a une loi autour du sport qui était discutée et cet amendement qui permet le port du voile. Enfin, en tout cas, le port du voile dans le sport n'a pas été interdit. Cet amendement n'a pas été retenu. Ça a été beaucoup débattu. On en a beaucoup parlé avec les hijabeuses. Et c'est passé totalement inaperçu.
Il a été retenu, l'amendement ?
Il n'a pas été retenu. D'accord. Donc, ça veut dire que chaque club se débrouille, se démerde, j'ai envie de dire, avec ses joueuses.
D'accord. Ok.
Pour le, il n'a pas été retenu. D'accord. Donc c'est pas interdiction.
D'accord.
C'était voilà. Donc je voulais le signaler parce que je trouve c'est quand même.
C'est le même problème d'ailleurs pour le port dans les piscines, puisque ça dépend du règlement local et donc c'est au maire de décider si effectivement dans les piscines on a le droit de le porter ou de pas le porter.
Un maire peut décider, mais si là c'est au niveau des clubs.
Non, c'est au niveau des clubs.
Moi, je bien malin à l'entraîneur ou le président qui va dire à ses joueurs ou à ses joueuses,
c'est très difficile.
Ne portez pas quoi que ce soit. Enfin, ça c'est compliqué de mettre les dirigeants de club dans cette situation-là.
Parce que les sénateurs l'avaient voté. Là,
les sénateurs votent toujours. Voilà.
La gauche n'a pas voté.
Immense courage politique.
Immense courage politique. Donc c'est puis c'est passé en catimini. C'est
vraiment en chapeau de Kozak. On peut rentrer dans tous les délires après.
Oui. Enfin, sauf qu'il y a moins il y a peut-être moins de prosélytisme à porter la chapka, c'est moins symbolique.
C'était une blague, mais c'est juste
j'ai bien compris.
Justement, il faut faire une règle qui s'applique à tout le monde, et comme ça, justement, les chefs de
les dirigeants de club
sont pas embêtés et ils disent c'est pareil, aujourd'hui c'est chasuble jaune, puis c'est chasuble jaune, puis c'est tout, c'est pas c'est ce que ça. Tu veux.
Voilà. Sophie, votre coup de gueule.
Oui, c'est un coup de lassitude. Oui. À part vous, Valérie, je trouve qu'on est dans une info où on devient un peu dingue parce qu'une crise chasse l'autre. Tout d'un coup, le coronavirus est devenu un coronarus, mais c'est un mauvais jeu de mots. Mais on abandonne l'élection, on abandonne l'élection elle-même avait fait passer le coronavirus derrière. Donc, on a une espèce d'information non-stop sur le même sujet, avec les mêmes répétitions, les experts se succèdent. Et il y a une vraie fatigue de la façon dont on traite l'information. C'est pour ça que ce matin, ça fait du bien aussi de parler un peu d'autre chose. Je veux dire, c'est vrai que c'est un problème national, comme l'était cette pandémie, etc. Mais que, voilà, ça suffit. Et je crois que c'est grave, y compris la campagne électorale qui est complètement zappée. Je pense qu'il va falloir raison garder et retrouver un peu un équilibre des sujets dans la façon de les traiter.
Mais Sophie, quelle solution ?
Vous voulez qu'on en parle pas ? C'est quoi le
c'est pas qu'on en parle pas, c'est qu'on parle que de ça. Vous ouvrez une chaîne de télé,
c'est légitime, c'est 100 fois plus grave.
On est au bord d'une guerre nucléaire, ça vous a pas échappé ?
Non, on est d'accord. Mais même si on est au bord d'une d'abord, on en parle pas plus que quand c'était un virus, pas plus que quand c'était l'élection présidentielle. Il y a une façon d'être mono-obsessionnel sur les sujets que je trouve grave. Oui, bien sûr.
Mais vous vous rendez compte, 7 millions de personnes qui vont être déplacées, c'est les chiffres. Un pays qui est attaqué complètement, qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est à 2 heures de chez nous.
Qu'il y ait des sujets là-dessus particuliers. Comment, par exemple, traiter effectivement le fait d'accueillir les émigrés, le traiter sous différentes formes. Mais là, il y a une espèce de
Des réfugiés, pas des immigrés.
Oui, des réfugiés.
Mais
sur le côté monosujet, effectivement, on ne parle plus du Covid, on ne parle plus des
autres
informations.
Faut être honnête, les chiffres
baissent. Le Covid, c'est fini. Enfin, c'est pas fini. Les chiffres baissent, il y a moins d'entrées à l'hôpital. C'est normal qu'on passe d'un sujet à l'autre. Et heureusement.
Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio pour parler donc de l'Ukraine, de la Russie, de cette menace brandie par Vladimir Poutine hier après-midi, menace de réponse nucléaire. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous sommes ensemble pour commenter l'actualité dominée évidemment par ce qui se passe en Ukraine, en Russie, avec la Russie. Poutine qui brandit la menace nucléaire, donc certains me disent vous en faites beaucoup, bluff, c'est la question qu'on peut se poser. Ben, vous Georges, qui travaillez sur le sujet depuis longtemps, vous pensez que c'est du bluff de la part de Poutine?
Non, il faut prendre tout ça extrêmement sérieusement.
Ouais.
Bon, évidemment, c'est du bluff, mais du bluff comme on en faisait pendant la guerre froide. C'est-à-dire deux ou trois fois, on est arrivé à des situations très très tendues. On se rappelle la crise des missiles de Cuba, pour ceux qui s'en souviennent.
C'est la dernière d'ailleurs, on a évoqué...
Qui a été une crise des missiles de Cuba et des missiles turcs, bon, c'est plus compliqué. Mais en dehors de ça, peut-être moins public, on a des dizaines de sous-marins nucléaires de chaque côté qui se sont croisés, qui se sont cognés dans les océans. Il y a eu plusieurs fois des tensions extrêmement sévères. Au moment où Poutine est arrivé au pouvoir, quand le Koursk a coulé, toute l'aviation stratégique soviétique est partie. Donc c'est l'aviation stratégique, c'est les bombardiers. Les Américains sont mis en DEFCON 2. Enfin bon, des tensions, il y en a régulièrement. Donc là, on a un pouvoir russe. Alors je ne sais pas si Poutine est seul ou s'il y a un risque de révolution de palais, mais en tout cas, on a un pouvoir russe. Parce qu'on ne va pas juste tout psychologiser, mais mettre sur une personne, c'est ridicule. C'est, tout ça se fait avec des centaines de gens. Ont décidé de mettre les pieds dans le plat, c'est le moins qu'on puisse dire, et de dire, de tracer une ligne rouge que nous, on n'apprécie pas beaucoup, mais qui est là. Et au point d'envahir un pays, et au point de dire, on arrête de rigoler, nous. Il faut le prendre très au sérieux. Et on va jusqu'à rentrer dans cette phase de menace nucléaire verbale qui, encore une fois, a souvent été faite. Mais en vrai, rien que la France, on a les moyens de vitrifier entièrement la Russie. Rien que nous, tout seul. Ouais. Avec nos sous-marins nucléaires lançant d'engins. Donc, on peut parler... Mais il y a un danger et les choses doivent être prises au sérieux et j'espère que de chaque côté, il y aura des forces qui vont vouloir tendre vers la négociation.
Oui, vers la négociation, sauf qu'il y a déjà eu plusieurs fois la question de la négociation.
Oui, c'est pas grave, il faut toujours faire.
Oui, il faut toujours le faire.
Une question, Nicolas justement, Jeanette. Mais est-ce que justement, on parle aussi de petites bombes nucléaires, les fameuses...
Non, on ne parle pas de ces petites bombes. Non, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Bon, déjà, vous avez des bombes thermobariques. Les Russes sont la plus grosse, les Américains, ils ont la reine des bombes, les Américains, ils l'ont utilisé en Afghanistan, ils ont rasé une montagne, je sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
Les Russes sont le père de toutes les bombes. C'est des thermobariques qui ont des effets quasiment en termes de destruction d'armes nucléaires. Donc déjà, il y a ça avant l'arme nucléaire. Mais ça n'existe pas, le concept. Les Américains l'ont développé, le petite arme nucléaire.
Les dirty bombs.
Mais oui, mais si vous faites ça, vous rentrez, ça y est, c'est
dans
fini.
Un débat
vous rentrez dans une
on
zone...
On commence par les petites et on finit par les grandes.
C'est-à-dire, si vous commencez à tirer une petite bombe nucléaire, je ne sais pas, sur une ville ukrainienne, dingue, pourquoi les autres ne riposteraient pas à ce moment-là, c'est parti.
Voilà.
Non, donc,
c'est l'escalade ensuite.
Quoi qu'il arrive. Mais vous savez, le vrai souci, si je me permets deux secondes, il y a un vrai grave souci, c'est qu'on a 10 fois moins d'instruments de désescalade qu'à l'époque de l'URSS.
Mmh.
Et c'est aussi dû à nos amis américains, qui sont sortis des accords START, qui sont sortis des accords INF, des accords d'armes intermédiaires, des armes stratégiques, qui sont sortis du traité de ciel ouvert. Mmh. Et avant, il y avait le célèbre téléphone rouge entre les présidents, mais il y avait un téléphone rouge entre les chefs d'état-major de différentes armées, entre les ambassadeurs, entre des responsables des affaires étrangères. Là, on est à un niveau qui est nul. C'est-à-dire que et en même temps, un surdéveloppement de la communication des réseaux sociaux.
Ils ne se parlent plus entre eux.
Donc, il y a très très peu de canaux de discussion. Ouais, et moi, personnellement, c'est ça qui m'inquiète considérablement.
Sophie, pardon. Puis après, Alex. Sophie,
oui, je voulais juste dire, nous n'en savons absolument rien. Et c'est ça qui, pardonnez-moi, c'est pas du tout contre vous directement, c'est assez exaspérant. On ne sait pas si c'est du bluff ou pas. D'ailleurs, si on le savait, ce serait beaucoup plus facile.
Ben oui.
On n'a aucune espèce d'idée. Ensuite, vous disiez, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme. Moi, j'ai des informations, en Russie, on dit que Poutine est malade, que d'ailleurs, on parlait de chirurgie esthétique, ce ne serait pas de la chirurgie esthétique, ce serait de la cortisone. On sait que la cortisone a une incidence très forte.
Mais là, vous rentrez dans le psychisme. Vous rentrez dans le complotisme.
Complotisme. Il n'y a pas une once de complotisme. Pourquoi un complotisme?
En gros, il se comporte comme ça parce qu'il est fou. Je veux dire, c'est.
Je ne sais pas. Si vous permettez que j'aille jusqu'au bout aussi, je ne sais pas. Et je suis au contraire un peu agacée par les experts qui savent. Non, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. On ne sait pas s'il est malade, mais il semblerait qu'il soit malade quand même. Et ça n'a rien à voir avec du complotisme. Ce serait beaucoup plus inquiétant d'ailleurs. Et donc, il y a actuellement une menace réelle qui semble disproportionnée. On a des réactions qui sont... Alors moi, j'ai uniquement mon point de vue de chef d'entreprise, des réactions économiques dont on se réjouit. Je ne suis pas du tout sûre que ce soit les bonnes. Donc, c'est très compliqué d'avoir des avis tranchés sur ce type de sujet. Se réjouir bêtement de « on va les tacler, on va les tacler au portefeuille », je veux dire, ça n'a pas de sens. La Russie aussi...
Si, ça a du sens, Sophie. Il faut bien trouver une réponse.
Quand on parle des oligarques, Les oligarches, pardon. Quand je dis les oligarches, ça a beaucoup moins de sens. Et la réalité aussi, c'est que les Russes se sont protégés un peu contre ça, ont déjà prévu ça, ils ont prévu pas mal de choses. Et qu'il semblerait en tout cas que le seul vrai point fondamental aussi, c'est la position de la Chine et ce que dirait la Chine. Mais en tout cas, s'agit-il de bluff ou pas de bluff personne ici n'a d'éléments concrets pour savoir ce qu'il faut.
Alex Armand. Justement, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Et les experts qui, depuis des mois, prévoient le fait que Vladimir Poutine, peut attaquer la Russie, on est très peu à les avoir écoutés. Et moi-même, je ne les ai pas trop écoutés. Non, mais je suis d'accord avec vous. Genre, je le dis justement. C'est prévu depuis longtemps. Donc, si aujourd'hui les experts nous disent qu'il y a quand même un risque, qu'il faut prendre ça très au sérieux, moi, je pense qu'il faut quand même, un peu comme la Covid, faut un peu écouter les spécialistes et les experts. Quand vous avez un Vladimir Poutine qui arrive en 2000 en Russie et que le budget de l'armée, parce que j'ai lu ça, je ne savais pas, était de 15 milliards d'euros et qu'aujourd'hui le budget de l'armée en Russie en 2022, il est de 65 milliards d'euros, c'est qu'il y a quand même une intention.
Il est faible.
Ouais. Non, mais il est peut-être faible, mais il y a quand même 40 milliards de plus étalés sur 20 ans, c'est qu'il y a quand même une intention et des choses qu'on a envie de faire. C'est tout ce que je dis. Mmh. Donc je dis simplement, on ne sait pas, mais écoutons les experts, ne faisons pas les mêmes erreurs qu'on a faites sur la Covid. Alors moi, en tout cas, c'est
exactement ce
que je pense. En disant que les experts, les médecins, chacun peut donner y aller de son avis, moi, je pense que les experts, ils ont quand même quelque chose à apporter.
Si je peux me permettre, le budget est passé à 62, mais c'est un rattrapage par rapport à ce qu'il y avait à l'époque de l'URSS. L'Allemagne, le budget prévisionnel pour 2027 est à 62, 63. Là, ils ont annoncé 100. Et le budget de l'Arabie Saoudite, pour comparer, il a 86.
Non, mais je dis pas que
c'est
le plus fort.
Et le budget des USA, il a 600, 700. Alors,
je dis pas que c'est le plus fort, simplement
c'est pas colossal, en vrai. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous.
C'est assez risqué, mais ce que je dis, c'est qu'en 2000, c'était la fin d'une flotte complète militaire en Russie. Oui, on savait que tout était obsolète. Et ils étaient à 15 milliards de budget. Aujourd'hui, ils sont à 65 milliards. Je dis pas que c'est énorme, parce que je suis pas assez expert, très honnêtement, pour savoir si c'est très important.
Par rapport au PIB, c'est énorme. Par rapport au PIB, c'est énorme. Ils ont à peu près le PIB de l'Espagne. Je veux dire, c'est gigantesque.
Ça c'est pas bon. En fait, faut pas penser de cette manière. J'entends des experts qui répètent cette histoire de PIB de l'Espagne. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais comparons les structures de PIB. L'Espagne, 75% de son PIB est composé de services et de tourisme. Mmh. S'il y a une guerre ou si on est en situation de conflits internationaux, c'est rien. Oui. Ça retombe bien à rien. Mmh. La France, c'est 10%. On a moins de 10% du PIB en manufacturier. Mmh. Ouais. La Russie, elle a un PIB faible, mais qui est basé sur ce qui n'est pas terrible dans la mondialisation, dans des exportations de pétrole, blé, de gaz, de toutes les ressources, d'armes, mais qui tout à coup devient extrêmement utile si vous êtes en période de guerre. Donc il faut prendre les choses sérieusement, juste comparer des chiffres qui ne veulent rien dire entre eux.
Sur l'entrée en guerre de Poutine, parce qu'on voit des auditeurs qui nous reprochent de taper sur Poutine, l'entrée en guerre, comment elle peut se justifier? Moi j'ai du mal à comprendre, je le dis très sincèrement, ceux qui justifient une décision comme celle-là.
C'est injustifiable. Il y avait une démocratie, on envahit une démocratie. Enfin, moi, je peux pas valider cela. Je peux pas valider Poutine. Enfin,
par rapport à l'OTAN, mais est-ce que
on a envahi un pays qui est une démocratie?
Non, mais il y a des gens qui justifient. Je sais pas, ils ont un problème. Enfin,
je comprends pas ces gens-là.
D'expliquer, c'est autre chose.
Expliquer,
il y a trois niveaux d'explication. Oui. Le premier, c'est ce que dit Poutine. Ce sont des criminels nazis, drogués, alcooliques. Mm-hmm. Bon, là, on est dans le délire. Mais qu'on fait nous aussi quand on envahit Saddam Hussein,
c'est Hitler. Frédéric nous rappelait, c'était les mots d'Hitler. Hein.
Oui, tout à fait.
À propos de
traiter les gens de nazis, on l'a fait avec Milosevic, on l'a fait avec Saddam Hussein, on l'a fait avec Kadhafi. Bon, c'est aussi ridicule dans tous les cas. Le deuxième niveau, il est beaucoup plus sérieux. C'est ce qui se dit depuis 2007, la conférence de Munich de 2007.
Et le non-respect des accords de Minsk.
Et les non les accords de Minsk, et donc ça est plus sérieux déjà, mais qui aurait pu... Mais ça ne justifie pas une telle attaque.
Ça ne justifie pas une invasion de la démocratie.
Troisième niveau, qui est ce que je disais tout à l'heure, enfin qui est mon interprétation à moi, que j'ai publié donc à la Revue Politique et Parlementaire, qui est peut-être qu'il y a un objectif de guerre beaucoup plus grave qui est, et où le nucléaire n'est juste qu'un moment de bluff, qui est l'entrée en Chine dans...
L'entrée de la Chine.
Ils ont déjà un accord stratégique. L'accord stratégique, ça fait des mois qu'il est noué. Ceux qui s'intéressent à ça le voient, donc on ne fait pas ce genre de choses pour rien. Si la Chine, si la Chine fait la même chose sur Taïwan d'une manière ou d'une autre, vu que c'est l'usine du monde, mais vu que Taïwan c'est 70% des microprocesseurs et que les Russes ont la deuxième puissance nucléaire, plus énormément de ressources naturelles, Eh bien, vous avez la fin de la mondialisation telle qu'on la connaissait, et donc la fin de l'hégémonie américaine. Alors, ce qui, je rappelle, est l'objectif stratégique des Chinois.
Mais et là, alors attendez, Sophie,
on
attendez.
Là, c'est la porte ouverte à beaucoup, beaucoup de problèmes. Heureusement, ça n'est pas nucléaire, mais bon, là, économique, d'effondrement du système bancaire. Enfin bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Et c'est l'objectif, je rappelle, de Xi Jinping.
Il faut bien d'ailleurs remarquer qu'il a attendu la fin des Jeux Olympiques.
Non, mais vous allez
répondre à votre question. Tout est bien orchestré, tout est bien validé.
Vous allez le dire dans un instant, Sophie, parce que c'est l'heure de la pub. Donc je vous donne la parole tout de suite après. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio. On parle évidemment de la situation en Ukraine et on essaye de comprendre aussi ce qui s'est passé. On a un auditeur qui me dit ça ne s'agit pas de justifier, mais de comprendre et de peut-être d'être moins manichéen. C'est vrai que le président ukrainien n'est pas non plus un ange tel qu'on voudrait nous le présenter dans les médias. Mais expliquer parfois veut dire justifier pour beaucoup de personne. Sophie, vous voulez réagir à ce que disait Jean?
Oui, je voulais réagir parce qu'il ne s'agit pas une seconde de justifier ce qu'a fait Poutine. On est bien d'accord sur l'envahissement d'un pays, etc. Mais il y a quelque chose que que certains opposent et qui n'est pas faux. L'Ukraine, oui, c'est une démocratie indépendante, un pays, etc., mais c'est la Russie. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend les choses très violentes. C'est une armée russe qui va attaquer des Russes. D'ailleurs, heureusement, de temps en temps, il semble qu'elle freine et qu'ils apprécient pas du tout d'aller attaquer, oui, d'autres Russes. Mais c'est quand même quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire qu'on a, malgré nous, en tête, c'est toute l'histoire, c'est ce concept de Russie. Et d'ailleurs, ce qui est très inquiétant parmi les raisons que vous évoquez, il y en a une qui est tout simplement celle de reconstituer la Grande Russie. C'est semble-t-il quand même l'objectif clairement.
C'est-à-dire qu'on peut s'attendre après l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie,
Biélorussie-Ukraine.
Mais moi je voudrais quand même comprendre, je vois les réactions qui arrivent, je lis pas tout, mais de nos auditeurs je ne comprends pas les réactions, ces réactions de gens qui justifient, comprendre
rien
d'une certaine
ne peut
manière,
justifier
c'est justifié. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec une invasion et que Poutine est dans son bon droit pour envahir un pays.
Et c'est surtout que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, encore une fois, moi je ne suis pas un expert, vraiment il faut être humble dans ces situations-là. Et c'est pour ça que je vous écoute avec beaucoup
d'intérêt. C'est intéressant d'avoir Georges
matin. Exactement. C'est surtout que moi j'ai 34 ans aujourd'hui, vous voyez. Je n'ai pas connu la guerre, je n'ai pas fait mon service militaire, on m'a très peu concerné par ces situations-là. Et la seule guerre que j'avais connue jusqu'à aujourd'hui, selon le président de la République en tout cas, c'était le coronavirus et le Covid. Nous sommes en guerre, vous rappelez de ça.
Bien
c'était
sûr.
Mal utilisé, je trouve, quand on voit ce qu'on subit aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est qu'on nous a beaucoup parlé du monde d'après, au moment du Covid, qu'on nous a dit le monde d'après, ce que ça va être. Et bien là, on est forcé de constater que le monde d'après, si ça continue comme ça,
c'est encore la guerre.
C'est surtout que ça va être le monde d'avant, en fait.
Oui.
Le monde d'avant, il y a longtemps.
On revient à
l'URSS et à toutes ces choses-là, ce qu'on a appris dans les manuels d'histoire. En tout cas, ce que j'ai appris.
Oui, voilà. Je ne sais même pas, parce que c'est encore pire, parce qu'au moins avant, il y avait un affrontement idéologique.
Oui.
Là, c'est pire, c'est qu'il n'y a pas d'affrontement idéologique.
Pas d'affrontement
parce que... Mais si, il ne veut pas de démocratie, Poutine.
Non,
c'est
non,
un antidémocrate.
Oui,
il attaque la démocratie.
Mais si c'est pas... Je parlais de...
Il y avait un bloc clair communiste
et capitaliste.
Il y avait des vrais fondements idéologiques.
C'était simple, une sorte de grande partie d'échec.
Tout à fait.
Là,
il y avait les communistes
en...
contre les libéraux. Il y avait... Et là, effectivement, c'est...
Et vous aviez raison, madame, madame de Menton, sur un point, c'est que c'est partiellement une guerre civile aussi. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il y a 11 millions d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. 4 millions vers l'Europe et 7 millions vers la Russie. Tous les ans, ce sont 350 000 jeunes Ukrainiens qui s'installent en Russie. Beaucoup de gens sont mixés, moitié-moitié, trois quarts.
Même le président dont on parlait est russophone.
Tout le monde est russophone. Et donc, tout ça est... Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que Poutine joue sur ce plan-là une carte. Je pense qu'il s'est trompé.
Oui.
Parce je pense qu'il allait être accueilli comme il a été accueilli en Crimée, où c'était 90% de Russes, passons sur la Crimée, et que ça va être l'accueil du grand frère, c'est pas ça en fait. Donc là, en dehors des négociations qui doivent être impératives en fait, qu'on ne peut pas, en tout cas au niveau des chefs d'État, on ne peut pas rentrer dans l'escalade continue. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est s'il y a une guérilla populaire qui s'installe.
Mais alors, qui est possible ou pas, parce qu'on évoque ça.
Ah, c'est très dur. Vous savez, ça coûte cher. Enfin, moi, j'étais en Afghanistan. Bon, là, on a des, pour faire résumer, on a des sortes de Spartiates qui vivent au Moyen Âge avec des chèvres dans les montagnes et qui sont en guerre depuis 60 ans et qui, bon, et avec des montagnes très très propices aux embuscades. L'Ukraine, c'est quand même très plat, à part dans les villes, mais vous vous souvenez de Sarajevo. Enfin, tout ça coûte très très cher. Et puis beaucoup de jeunes de votre génération, y compris en Ukraine, évitent le service militaire, n'ont pas fait le service militaire. Enfin,
ils reviennent là pour prendre les armes, mais ils n'ont aucune formation.
Mais former une brigade internationale pour aller au combat, mais avec qui ? Personne n'a fait le service militaire en France.
Donc ça veut dire que vous pensez que Kiev va tomber rapidement ?
Non, je ne pense pas. Kiev, c'est une très grande ville. Et puis il y a quand même une armée, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui ont été en conflit aussi du côté ukrainien. C'est pas aussi simple, d'autant plus qu'on envoie du matériel. Mais il y a une chose qu'on fait qui est un petit peu... Moi, je suis très étonné, parce que normalement, on aurait dû voir ce qui se passait, vu les accords stratégiques entre la Russie et la Chine, le fait que la Russie vende toutes ses réserves de dollars, achète de l'or, réduit petit à petit ses livraisons de gaz, ça fait des mois et des mois, donc il se passe quelque chose. Mais bon, passons. Là, tout à coup, l'Europe se réveille et envoie des armes. Légères, des grenades, bien des sûr. Mitraillettes, des fusils d'assaut et des missiles anti-chars. Bon, super. Mais c'est avant qu'il fallait le faire.
Et là, justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous trouvez pas ça franchement ironique de dire qu'on n'est pas en guerre en France aujourd'hui ? Parce qu'on clairement, c'est le message qui est passé. On n'envoie pas d'hommes, personne ne part sur le terrain. Mais par contre, on donne 430 millions d'euros à l'Ukraine pour envoyer des armes. On envoie même des hommes du GIGN. Alors c'est ce que j'ai lu pour protéger l'ambassade.
Oui, pour manger l'ambassade, oui, bien sûr.
Non, mais d'accord, mais très bien. Mais ça veut dire quand même qu'on participe à un moment donné à la guerre, d'une certaine façon.
Souvenez-vous, toutes les guerres durant la guerre froide, c'était ça. C'est une règle justement des pays qui ont l'arme nucléaire. On ne peut pas rentrer en conflit direct. Par contre, on a toujours eu des guerres de proxy où on appuyait tel groupe, puis les Russes, les Soviétiques appuyaient tel groupe et envoyaient des armes. De facto, ça faisait la guerre. L'exemple le plus connu, c'est l'Afghanistan. Ils envoyaient des Stingers, des armements, y compris des gens sur le terrain, mais c'était pas en direct. Donc c'est à peu près la même chose qu'on fait là, en fait.
Moi, ce que je remarque aussi, ce qui me frappe, c'est la communication aussi. On va parler de RT France et Spoutnik. C'est la guerre de la communication, des infox. Je vois quand même qu'il y a des salopards qui retweetent des gens à Kiev qui disent qu'il se passe rien et que tout va très bien. Et j'ai pas d'autre mot que salopard sur ces gens-là. Où on a même Francis Lalanne qui explique que le président ukrainien est parti. Non, mais il y a du... Pardon, ça ne va pas plaire à un certain nombre. Il y a un complotisme hallucinant qui se met en place autour de ça. Que tout ne soit pas... Enfin, qu'on ne soit pas manichéens, les bons, les gentils. Oui, le président ukrainien est vraisemblablement corrompu et il faut
le
dire.
On peut être corrompu et héros en même temps.
Et héros en même temps, voilà, c'est ça. Mais il y a ce truc qui me sidère.
On a eu Danton chez nous.
Oui.
Que moi j'aime beaucoup.
Oui, mais alors il y a quelque chose. Vous avez raison, Valérie. Alors complotisme, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont convaincus, qui croient avoir des infos et des sources. Moi, je répète que on ne sait pas, même si on peut analyser rationnellement et essayer de faire état de ce qu'on sait. Donc c'est pas forcément du complotisme. C'est des gens qui sont convaincus de ça. Quand on analyse. J'ai entendu dire qu'effectivement, il y avait en Ukraine un mouvement fasciste qui n'est en aucun cas quoi que ce soit d'accepter les choses. Et quant à RT France, c'est un sujet différent. D'abord, c'est l'Europe qui a effectivement demandé qu'on ferme RT France, qui était la chaîne française.
RT sur tout le continent européen, pas qu'en France.
Oui, bien sûr. C'était mais je déjà parle RT France, c'est la seule Allemagne. Chose que je connaisse.
Oui, absolument. Non, mais c'est toute la chaîne RT, Russia Today, qui est une chaîne gouvernementale russe, qui est diffusée partout en Europe. Donc, elle a été déjà fermée en Allemagne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et Spoutnik également. Et donc, là, l'Union européenne...
C'est un peu un sujet que je connais, parce que j'y suis intervenue, donc je connais un peu. J'ai vu la jeune femme qui préside cette chaîne, qui a été à Harvard et qui... est en France depuis des années. Et ce que je sais, c'est tout ce que je sais, c'est qu'il y a 120 ou 110 journalistes français qui vont être au chômage ou pas, ça va être juridiquement extrêmement compliqué. Ce que je sais, c'est que le CSA surveille ça comme le lait sur le feu et qu'il semblerait... mais qu'il semblerait, mais je ne suis pas toute la journée sur, sur l'antenne. D'abord, je trouve que c'est bien de fermer effectivement cette antenne, quoi qu'il y ait une façon, une sorte de liberté de la presse. Donc, je suis moi-même troublée par ça. Je comprends qu'on veuille le fermer. Je sais que ce sont des journalistes français qui ont fait leur boulot. Je sais qu'ils font des émissions qui n'ont rien à voir avec la Russie. Je sais que la fille qui dirige ça.
D'accord.
Mais... Non, mais attendez, attendez. Je dis pas, laissez-moi finir. Je ne justifie
donc, en gros,
pas.
C'est
je pense que
en
c'est
gros,
bien
c'est...
De gros, d'agir sur tout ce qu'on peut. On peut agir sur tout. Mais je dis simplement qu'il faut aussi raison garder sur la culpabilité, entre guillemets, de RT France, qui avait été acceptée. Tout le monde allait un peu sur, sur cette chaîne. Oui, mais
enfin,
ça n'empêche pas qu'il faut réagir.
La situation n'est pas tout à fait la même.
Moi, je
ne
suis pas du tout d'accord, en revanche. Je suis contre la fermeture de RT France.
Oui, bah,
au nom de la liberté
Sophie.
D'expression.
Oui, bah, oui.
Contrairement à ce que certains voudraient dire, on a une chaîne. À partir du moment où sur Facebook, on la voit, il y a la notion marquée chaîne officielle de l'État russe. Moi, ça ne me gêne pas du tout. On a d'autres chaînes de d'autres puissances qui sont diffusées. À partir du moment où on sait que c'est la chaîne officielle de l'État russe,
voilà,
au nom de la liberté d'expression, je ne vois pas pourquoi on ferme
ça peut
RT
même
France.
Être une info
surtout,
intéressante.
Surtout que je regardais l'autre jour, mon fils regardait sur son portable RT France
bien
et que
sûr.
Je vois bien qu'il y a la notion
chaîne média,
de l'État,
média russe.
Donc,
il
y a déjà toutes ces mesures préventives pour bien indiquer que, voilà, il faut faire attention à ce média. Mais au nom de la liberté d'expression, je ne vois
c'est
pas pourquoi on a fermé ce média.
Georges Kuzmanovic.
Bah, vous voyez, je suis pas entièrement d'accord avec vous. Pourtant, je suis passé pas mal sur RT.
Moi, j'ai toujours refusé. Par contre, vous voyez, mais bon.
Non, je vois pas pourquoi. Justement, c'est un média, mais on n'était pas en guerre.
Oui.
Et moi, je me souviens ce que j'ai demandé pour Al Jazeera au moment où il y avait les attentats. Il y avait des prêches extrêmement antisémites. Je ne comprenais pas que ce soit pas interdit. Et donc là, on est dans une situation qui est différente. Et moi, je reste attaché au Conseil national de la résistance, au programme des jours heureux, qui disait que les médias doivent être indépendants des pouvoirs étrangers et des pouvoirs d'argent. Là, on est dans une situation de conflit.
Non, mais aucun,
c'est pas complètement improbable.
Aucun média dans le monde n'est...
Et on est très très loin d'être indépendant des pouvoirs d'argent, par contre.
Oui.
Mais bon, c'est un autre
donc
sujet.
Donc vous estimez que c'est normal qu'on
C'est au moins normal que ça se discute. Parce que RT est très intéressant sur plein de sujets, mais sur les questions géopolitiques, c'est quand même un média du gouvernement.
Oui, mais vous savez ce que vous regardez.
Voilà, c'est la liberté
d'expression.
Vous savez
ce que vous regardez.
C'est pour ça que je dis, non, j'ai pas dit qu'il faut l'interdire de manière sûre.
Vous savez pourquoi je vais parler de ma situation personnelle, une fois n'est pas coutume. Moi, je suis journaliste, j'ai une carte de presse, et à l'époque, je travaillais sur une antenne, et Russia Today, RT, quand s'est fondée cette chaîne, est venu me chercher pour venir travailler dans leurs locaux qui sont à côté de... J'ai dit non, c'était personnel. J'avais pas envie de travailler sur cette chaîne. Mais ce que je trouve intéressant dans cette situation aujourd'hui, Russia Today, moi je suis un peu d'accord. Pour le coup, je pense qu'on est en guerre aujourd'hui et que tout se redéfinit. Et vous pouvez pas faire semblant que. Ouais. En Russie, je suis désolé, vous avez un média pro-français? Vous l'avez pas.
Non mais
tout est contrôlé.
Il
passe
France 24. Il y a France 5 Monde.
En tout cas, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que moi,
c'est
je me rappelle
à
l'époque, j'ai travaillé là-bas. Enfin, j'ai refusé de travailler là-bas. Et ce que je trouvais amusant, c'est qu'à l'époque, on venait chercher les journalistes d'une chaîne qui appartenait à une grosse puissance, Canal+, pour pas la citer, une chaîne d'information, qui quittait cette chaîne-là parce qu'ils disaient que c'était aux mains de puissance financière et qui partaient, certains, et ils ont tout à fait le droit, c'est leur choix, pour travailler sur RT, qui était, on le savait, quand on était reçu sur l'entretien d'embauche, on savait que c'était un média d'État russe. Voilà, c'est tout. Donc à partir de là, aujourd'hui, l'interdire, je suis pour parce que je veux être patriotique et je veux dire, oui, c'est bien de l'interdire, et voilà. Après, je comprends et j'entends ce que, on a le droit d'en parler, j'entends ce que chacun dit. Mais on peut pas reprocher le fait de la fermer aujourd'hui. Voilà,
non,
on peut pas.
C'est la chaîne d'un pays qui menace.
Oui, en période de guerre,
le monde de l'arme nucléaire.
Mais
les Américains n'ont pas fermé RT anglais. Vous avez vu ?
Non, j'ai pas vu.
Non.
Bah, ils ont pas fermé.
Ah oui, donc c'est.
C'est bizarre. Bon.
Mais oui, Sophie.
Je pense que vraiment ça se discute, c'est un cas de conscience. Moi, je suis troublée, je pense que la liberté de la presse est fondamentale.
Voilà, moi
je
aussi.
Pense que là-dessus, on ne doit certainement pas se comparer
même si c'est
à la Russie
presse...
qui ferme. On est justement pas comme les Russes. Et en plus de ça, je me demande si le fait d'avoir RT, donc on peut imaginer que ce soit une information dictée par la Russie. Eh bien, je pense que c'est une information dictée par la Russie.
Donc, c'est pas de base, c'est pas un organe de presse. Je pense que justement,
avoir actuellement une information dictée par la Russie peut être tout à fait intéressant pour voir ce qu'ils sont en train de manipuler, comment, etc. Je pense que ça peut aussi être une source d'information utile contre cette guerre.
Vous inquiétez pas, ils le font avec RT ou RT, ils regardent ce qui se passe en Russie.
Bien sûr.
En France, c'est pas un organe de presse. Vous pouvez pas dire que c'est un organe de presse qui fait son travail de journaliste sur le terrain. Enfin, quand vous voyez nos confrères qui aujourd'hui sont en Ukraine ou sur ce terrain-là, là, ils font du travail de guerre, ils racontent ce qui se passe. On peut pas comparer en disant non. C'est pas ça de la presse. Là, c'est de l'institutionnel. On relate ce qui se passe, on relate de l'information qui est sélectionnée, puis c'est réglé, voilà, c'est tout.
Ce matin, Sébastien Chenu disait « Je ne suis pas sûr que il était l'invité du Grand Matin Sud Radio. Je ne suis pas sûr que l'interdiction dans l'UE de Russia Today ou Sputnik soit la sanction type qui fera reculer Poutine. Est-ce que cela ne va pas plutôt faire monter l'idée d'un complotisme affirmé ?»
Ça n'a aucun rapport, de toute façon.
Ça fait partie des sanctions annoncées hier.
Oui, enfin la sanction de fermer RT, c'est pas... Bon.
Olivier nous dit, l'émission de Tadi était assez libre pourtant sur RT, mais il a décidé lui-même d'arrêter...
De partir
Il s'est mis en réserve.
Il faut pas, il faut se souvenir de l'objectif de la création de RT France. RT a été organisé et créé justement dans le but de diffuser des informations pro-russe, pro-Poutine sur le continent européen et mondial. Donc,
on est dans un état de droit.
Mais en même temps, il y a la liberté d'expression, des avocats qui défendront RT, et la
justice tranchera. Mais...
Allez, on marque une pause, petite pause pub, on se retrouve dans un instant, on va peut-être revenir un petit peu en France avec Pécresse, Mélenchon, Zemmour, Le Pen, Macron, qui n'est toujours pas candidat. On va en parler avec vous, à tout de suite.
Et les parrainages.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Alors, nous avons un auditeur qui souhaitait réagir, Alain de Perpignan, à notre débat. Bonjour Alain.
Bonjour. Bon, écoutez, je vais essayer de faire court. Hein. Oui. Je vous donne mes références. J'étais professeur au lycée français de Saint-Gaud. Je suis arrivé en 1968, je suis reparti en 1975 en hélicoptère à partir de l'ambassade américaine. J'étais toujours de votre côté. Voyez, et je vais vous dire ceci pour ces messieurs dames qui sont à la radio. Je vais vous dire les moments où j'ai eu le plus peur en Indochine. C'est quand j'étais en vacances en France et que je lisais les reportages de Paris Match. Et ça, je vous le dis. Ah oui, non, c'est là où j'ai eu le plus peur. Deuxièmement, je vais vous dire une chose pour le Nouvel Ops. Le Nouvel Ops, j'ai reçu le Nouvel Ops à Saigon et il y avait la cathédrale de Saigon qui était photographiée derrière des fils de fer barbelés. Je passais là tous les jours, j'ai jamais vu ces fils de fer barbelés. Alors un jour, j'en ai eu assez, je suis allé avec le journal et j'ai regardé. Et j'ai trouvé contre un arbre trois spires de fils de fer barbelés que personne ne regardait. Le journaliste s'était mis là derrière pour photographier la cathédrale de Saint-Denis.
Donc vous dites que la guerre n'existe pas ?
Non, ce que je veux dire une chose, écoutez. Je vais être honnête, hein, et moi je ne prends parti pour personne. Pendant la guerre au Vietnam, quand il y avait l'agence Reuters, on pouvait aller partout. Je chassais les papillons. Je peux vous dire, je chassais les papillons parce que les barrages américains, on n'a jamais eu d'amis, on savait où aller. Et on s'aidait aussi avec les gars qui étaient formidables, c'était des missionnaires français. Quand il y a eu la vietnamisation, vous savez que les Américains sont partis un an avant. Il y a eu la vietnamisation. Et à ce moment-là, plus l'agence Reuters, c'était l'agence France Presse, c'est ça, non? L'agence.
L'AFP.
Et on savait plus où aller. On n'a plus chassé les papillons parce qu'on était au courant de rien.
Ah oui.
Bon. Tout ça pour vous dire que vous discutez beaucoup. C'est une affaire qui est très grave. Je vous le dis franchement. C'est très grave.
C'est pour ça qu'on en débat. On entend ce que vous dites et vous avez l'expérience de cette guerre d'Indochine. C'est vrai que la question de la guerre et on en parlait avec Georges sur le plateau avec également Nicolas et Alex Darmon. Que vont devenir les armes qui sont distribuées en ce moment en Ukraine? Une information selon le quotidien britannique, c'est Stéphane qui m'envoie renvoie cette information The Times. Plus de 400 mercenaires en ce moment écument Kiev pour trouver et assassiner le président ukrainien. Il s'agirait de membres du groupe Wagner, groupe paramilitaire russe, déjà identifié au Mali et au Proche-Orient. Mais c'est vrai qu'il y a une escalade tout de même dans l'armement qui fait qu'on peut se poser la question.
Et Valérie, on peut même se poser les questions. On a vu des images à la télévision de chars russes, par exemple, qui tombent en panne d'essence. Imaginons que demain, un char russe qui comporte un missile tombe en panne et qui est pris par des mercenaires qui se saisissent du missile et qui l'utilisent. Ça s'utilise facilement, un missile ?
Non, ce qui s'utilise plus facilement, c'est les armes qu'on distribue en ce moment, qu'on envoie, que l'Union européenne aurait dû envoyer avant pour organiser une défense territoriale, ce qui n'a pas été fait. Bon, ça sera un peu long à expliquer, mais là on envoie des armements, dont des missiles de troisième génération qui sont très très bien contre les chars russes, mais c'est une distribution qui se fait un peu comme elle se fait dans des moments de guerre. Et il y a des organisations mafieuses, il y a des organisations
pas loin des terroristes,
potentiellement terroristes, qui ont des connexions avec, et dans ce genre de situation, quand on distribue des armes, on l'a vu à l'époque des guerres de Yougoslavie, des trucs qui se retrouvent sur le marché.
Parce qu'il y a des mercenaires qui arrivent d'un petit peu partout, des deux côtés, on recrute, on a vu les images terribles des Tchétchènes qui sont en train d'arriver, qui font vraiment, vraiment peur. Alors ils sont des deux côtés, hein, les Tchétchènes, apparemment, il y en a qui vont aider l'Ukraine.
Il y a beaucoup plus du côté russe, mais il y en a qui sont du côté ukrainien.
Ils sont essentiellement du côté russe quand même.
Non, c'est le côté ukrainien.
Mais il y en a aussi du côté ukrainien. Sophie ?
Ce qui est embêtant, c'est qu'il semble que l'Ukraine ait une très très mauvaise organisation de l'armée. C'est-à-dire que c'est des gens très courageux, mais qu'il y a un encadrement et une organisation de la défense qui laisse énormément à désirer. Donc, compliqué aussi d'envoyer des armes, etc., quand ils sont désorganisés.
Oui. Non, mais c'est une mauvaise organisation au sens d'une armée qui affronte une autre armée. Mais par contre... C'est pour ça que je parlais de défense territoriale. En 1948, Tito, excusez-moi du terme, dit merde à Staline à un moment où c'était chaud. Et ben, ils n'ont jamais osé intervenir parce qu'il y avait une défense territoriale, justement, de petites unités partout dans le terrain qui ont chassé les armées nazies, quand même, par eux-mêmes. Et que, bon, quand ça s'est organisé, qu'ils ne demandent pas non plus des moyens colossaux, c'est très très difficile d'avancer dans un pays.
Question de Jean-Marie qui demande si nos distributions d'armes sont crédibles alors que les Russes contrôlent la côte et le ciel. Est-ce qu'on arrive à acheminer des armes, effectivement ?
Il y a beaucoup de... C'est ce que j'ai souligné dans un tweet, il y a fait beaucoup de blabla. Est-ce que comment c'est envoyé ? Si c'est envoyé par des... Il faut les acheminer. Bon, c'est compliqué, surtout si les Russes descendent par la Biélorussie et coupent la frontière avec la Pologne. Donc si c'est acheminé par nos forces spéciales, à ce moment-là, on rentre dans un autre délire. C'est-à-dire que nos forces spéciales se trouvent sur un terrain de guerre, donc on est en guerre.
Donc là, on est en guerre, oui.
Et si c'est pas des forces spéciales, eh ben, ce sont des gens qui font passer des choses, et les gens qui font passer des choses, c'est les mafias. Ouais. Et c'est très compliqué.
Et donc on ne sait pas...
Donc on ne sait pas comment c'est fait. Quand on a distribué des armes en Syrie, il y a beaucoup de gens qui ont demandé, qui voulaient avoir une commission d'enquête pour savoir combien, à qui et comment ont été distribuées les armes. Ça n'a jamais été fait. François Hollande bloquait parce que bon, voilà, c'est un pays en guerre, donc c'est très très difficile à tracer, c'est tout.
Oui. La question était aussi, il me semble que Dassault a vendu des armes à la Russie, enfin des armes, des avions, non ? On n'a jamais vendu, oui. La France n'a jamais vendu...
Non, on a failli vendre les Mistral, mais ils n'ont pas vendu... Ils produisent leurs armes, ils sont exportateurs d'armes, les Russes.
Ouais. La France, on revient en France, la campagne...
Ça, c'est dramatique, pour le coup.
La campagne s'est complètement arrêtée.
Moi, je peux vous le dire, d'ailleurs, parce qu'on fait avec les indécis les interviews des candidats à l'élection présidentielle, et c'est pas du tout leur priorité, aujourd'hui, aux candidats. Pas que c'est pas leur priorité.
Ils peuvent pas, c'est inaudible.
Ils peuvent pas, ils sont inaudibles. Là, on devait en faire deux aujourd'hui, mais finalement, ils sont convoqués par Matignon pour être informé de ce qui va se passer à 15h, donc ça bouscule. Et franchement, c'est pas une campagne présidentielle comme les autres. Alors, je regardais par simple curiosité hier, est-ce que c'est possible que le président Macron, parce que lui aussi, il est dans une certaine situation compliquée, parce qu'il doit se déclarer avant vendredi, et je sais pas quand est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire. Je regardais hier par curiosité, est-ce que c'est possible qui demande le report du premier tour.
Il faut
un vrai motif, et ce n'est pas un motif intérieur, de sécurité intérieure, et ce n'est pas un motif.
Il faut changer comme la loi.
N'est pas engagé dans la guerre. Ce n'est pas un motif qui permet. J'en parlais avec un constitutionnaliste qui permet de demander le report. Donc honnêtement, ça va être une campagne qui va être très étrange pour tout le monde, parce que c'est la priorité ni des Français ni du président Emmanuel Macron. Et je pense même, franchement, sincèrement, ni des candidats qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle.
Oui, enfin, quand il n'y avait pas la guerre, ils n'étaient pas pour autant excellents et la campagne patinée.
D'accord,
on ne trouvait pas, quand même, chez les candidats, c'était étonnant de voir que c'était déjà une fausse campagne. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on a presque envie de dire que Macron est réélu par tacite reconduction. Parce que au-delà de ça, même, et ça, il faut un coup de chapeau aux candidats, parce qu'ils ont tous dit qu'ils n'allaient pas attaquer le président de la France. En ce moment, j'ai trouvé ça bien, parce qu'on a envie qu'ils fassent des propositions, personne ne les empêche d'en faire, mais c'est vrai que ça aurait été anormal de critiquer le chef de l'État qui, de toute façon, fait objectivement tout ce qu'il peut contre cette guerre.
Oui, enfin, il s'est fait quand même balader par Poutine.
Qui ne se serait pas fait balader par
Poutine.
On était en guerre en 14-18. Clémenceau était extrêmement critique jusqu'en 17, mais critique du gouvernement alors qu'on était en guerre. Il faisait politiquement la guerre au gouvernement et quand il arrivait au pouvoir, ses amis socialistes voulaient qu'il y ait une censure. Il a dit non, on est en démocratie, il n'y a pas de censure, y compris en guerre. On doit pouvoir critiquer le chef de l'exécutif. Et je pense que c'est très normal. Sinon, on bascule dans n'importe quoi. Bah si, vous avez dit, on critique pas. Mais si, on critique.
On
critique.
Et si on, je pense qu'il faut critiquer le chef de l'État. Il faut continuer à critiquer.
La souveraineté, si on n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN, si on était comme à l'époque de Gaulle, vu que nous avons l'armement nucléaire et un siège au Conseil de sécurité, eh ben c'est pas le même bonhomme qui arrive devant Poutine. Il a une force en propre. Et il n'y a pas le communiqué du Kremlin qui arrive 3 heures après qui dit « Oui, c'était très intéressant la proposition française, mais moi je parle au chef, il est à Washington. »
Merci à tous les quatre. Merci pour ce débat, évidemment, qui va se prolonger dans les jours à venir, dans les différentes éditions sur LCI. Très bonne journée sur LCI, sur Sud Radio, pardon. ça fait 4 ans, 5 ans que je me dis que je ne l'ai jamais faite. Et voilà, je l'ai faite. Mais je trouve que LCI a fait une très, très bonne couverture.
C'est vrai, bonne édition spéciale.
Je rends hommage aux journalistes d'LCI, à Amélie Carouer en particulier, que je trouve absolument remarquable. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Merci à vous. Et on se retrouve demain.